Merci d'écouter Radio Okapi, il est 12h à Kinshasa, voici votre journal. L'évêque du diocèse catholique de Butembo Beni s'inquiète de la montée de l'insécurité dans la région. Monseigneur Sikouli Melchisedek invite les autorités du pays à tenir leurs promesses et à la population de s'abstenir de collaborer avec les ennemis. Poursuite de la grève des enseignants dans la province du Maniema, le directeur de la province éducationnelle estime que le moment est mal choisi, étant donné que les accords existent entre le gouvernement central et les syndicats pour régler tous les problèmes. Notre invité, c'est le chef de bureau de la MONUSCO Sud-Kivu, Karnasoro, parle des activités menées en appui avec le gouvernement provincial. Il plaide pour une intervention d'urgence en faveur de 10 000 déplacés de Bidjombo et de Mikenge qui veulent retourner dans leur milieu. Madame, messieurs, bonjour au micro. Pascal Masirika, Diedone Nyangasa est sur les manettes. Recrudescence de l'insécurité à Beni au Nord Kivu. Cette situation inquiète l'évêque du diocèse catholique de Butembo Beni. Monseigneur Sikouli Paluku Melchisedek condamne la profanation du secteur de Lissala lors de l'attaque du dit village samedi dernier par les rebelles ougandais de l'ADEF. Ce prélat invite les autorités à tenir leurs promesses et à la population de s'abstenir de conflits de tout genre et de ne pas collaborer avec l'ennemi. Reportage à Beni de Guylaine Kassassia.
De retour de Kinshasa, où il a pris part à la 57e assemblée plénière de la conférence épiscopale, l'évêque du diocèse catholique de Butembo Beni s'inquiète de la recrudescence des tueries et kidnapping en territoire de Beni. Dans un entretien avec la presse du diocèse, Paluku Melchisedek fustige les silences honteux doublés d'une indifférence des autorités compétentes. Ce pasteur appelle les autorités à être plus réalistes.
Il faut compter que nous sommes en insécurité depuis plus d'une décennie. Ça se passe dans un silence indifférent. Quand on est autorité politique, on dit oui, nous comprenons, nous allons essayer de mettre fin à cela. Mais nous voulons qu'on fasse des promesses réalisables. Autrement, il vaudrait mieux se taire.
Revenons sur les récentes tueries à Lissassa de samedi dernier. L'évêque condamne les assaillants qui ont profané les objets sacrés de l'église du secteur portant les mêmes noms.
Ce qu'on considère comme sacré doit être respecté. Donc ils ne doivent pas commettre de profanation parce que ce qu'ils font, ce n'est pas digne de quelqu'un qui a encore une conscience.
Pendant ces temps, le pasteur de Butembo Beni exhorte la population à ne jamais conjuguer avec l'ennemi, mais de rester en éveil en dénonçant tout mouvement suspect. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, une autre personne a été tuée et deux autres grièvement blessés par balle la nuit dernière dans la périphérie de la ville de Goma. Les sources administratives locales affirment que deux des victimes sont d'une même famille. La troisième victime, un enfant, a été blessé par un policier en état d'ébriété. Le récit de Bernard Denyangui.
Le premier incident est survenu dans le village Ngangi, en territoire de Nyiragongo, dans la périphérie nord du quartier Majengo de la ville de Goma. Des sources sur place précisent que c'est à 19h locales que des bandits armés ont fait irruption dans la famille d'un couple d'échangeurs de monnaie. Sans rien dérober, les bandits ont tiré sur les occupants. Le père de la famille, âgé de 40 ans, est mort dans un hôpital de la ville de Goma suite à ses blessures. Son enfant de 10 ans, qui a reçu une balle dans la jambe, poursuit encore des soins à l'hôpital. Le deuxième incident s'est passé dans le quartier Lac Vert, dans l'extrême ouest de la ville de Goma, par un élément de la force de sécurité commis à la garde d'une station-service. Il aurait tiré sur un enfant de 3 ans qui fut blessé au pied. Les sources administratives locales sont formelles. L'auteur du tir serait aussi en état d'ébriété. La balle serait partie par inadvertance sur la victime. Pour les acteurs de la société civile urbaine de Goma et dans le territoire d'Ingragongo, ce regain de la violence est devenu une préoccupation. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Au sud Kivu, pendant ces temps, les acteurs de la société civile dénoncent des cas de recrutement forcé de jeunes par les différents groupes armés actifs dans les hauts plateaux de Fizi et d'Uvira. Le président de la société civile de Masango, Enoch Muholeza, affirme que ce recrutement des jeunes s'est fait aussi bien dans le groupe Tuguaneo que celui des Maïmaï pour des objectifs non encore bien élucidés. Dimanche dernier, au village de Kalingi, en territoire de Fizi, certains jeunes de la communauté locale ont été soumis aux travaux forcés pour avoir refusé de se faire enrôler dans les groupes Tuguaneo. À Uvira, une correspondance de Fiston Goma.
Deux jeunes gens de près de 20 ans d'âge ont passé deux jours de travaux forcés et de réclusion dimanche dernier à Kalingi. Les éléments Tuguaneo voulaient les enrôler par force à rejoindre le groupe Akamombo. Selon d'autres sources locales contactées à Minembwe, une cinquantaine de jeunes sont déjà recrutés et formés à Kalingi pour attaquer le village du secteur de Lulenge dans les prochains jours. Des notables de Minembwe Centre ont exprimé leur inquiétude hier sur cette situation à la MONUSCO à travers la section des affaires civiles. Ils ont appelé la mission onusienne de sensibiliser la communauté locale afin d'éviter ces phénomènes de recrutement forcé. Contacté à ce sujet, un des responsables des groupes Tuguaneo a rejeté en bloc ces allégations. Il accuse par contre les Mai Mai de recruter et de se concentrer pour lancer les attaques sur plusieurs villages dans la région. Mardi dernier, des soldats des FRDC en patrouille ont appréhendé deux miliciens Mai Mai du groupe Bilozubi Chambouke en provenance de Burembo dans les territoires de Fizi. Ils sensibilisaient les jeunes à adhérer à leur mouvement dans la région. Les porte-parole de l'armée au sud du Sud Kivu précisent que l'armée est informée depuis longtemps de ces recrutements. Le commandant secteur opérationnel Sokola 2, le général Gabi Boswane, relayé par son porte-parole, appelle les parents de sensibiliser leurs jeunes à éviter ces recrutements. D'Ouvira Fiston Mamayaba, la radio Kapi.
Sud Kivu encore, la MONUSCO lance un appel au gouvernement et aux humanitaires pour une assistance d'urgence en faveur des déplacés de Bijumbo et de Mikenge. Plus de 10 000 personnes ont besoin de reprendre la vie normale dans leur milieu respectif. Appel lancé à Bukavu à la presse par le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu. Les propos de Karna Soro ont été recueillis par Emmanuel Elamejua Kabedi.
La situation est critique. Les conditions de vie de ces populations sont extrêmement difficiles. C'est une zone qui connaît beaucoup d'intempéries naturelles. Il pleut énormément. La nuit, les températures descendent jusqu'à 7 degrés. Nous avons autour de la base de Bijombo, autour de 7 à 8 000 personnes, dont presque 4 000 enfants. Nous avons autour de la base de Mikenge, autour de 3 000 personnes aussi. Mais je voudrais vraiment demander ici à l'ensemble des autorités provinciales, locales, régionales, de se mobiliser pour apporter une bouffée d'air à cette population, pour qu'elle puisse retourner vers ses champs pour pouvoir vivre en paix. Il faut vraiment que tous les efforts soient mis en œuvre, en appui donc à ce que la MONUSCO fait. Il faut vraiment que ces populations puissent reprendre leur vie normale. La situation est extrêmement difficile. Toutes les écoles ont été brûlées dans la zone. Les centres de santé aussi ont été incendiés. Donc toute l'infrastructure sociale de base n'existe plus.
Et puis, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer le transfert à Kanyamakassese dans la province du Olomami de jeunes délinquants communément appelés Kuluna de Kinshasa. Pour l'Assemblée provinciale, au lieu d'envoyer des hors-la-loi dans ce centre de Kanyamakassese, le gouvernement central ferait mieux de recruter localement la main-d'œuvre au lieu d'exposer la population à l'insécurité qui pourrait être l'œuvre de ces jeunes. Pour en parler, retrouvons Lubumbashi Jangandu.
Si pour les autorités nationales, envoyer ces jeunes d'Ikuluna à Kanyama, c'est débarrasser la ville de Kinshasa des délinquants qui doivent désormais apprendre un métier pour être utiles à la société, leur présence sur place n'est cependant pas du goût de tout le monde. Pour la société civile locale, ces jeunes risquent d'être source d'insécurité pour les habitants de ce territoire. Elle se demande pourquoi le gouvernement ne recrute pas les jeunes localement pour qu'ils apprennent aussi un métier que de faire venir ce qu'elle qualifie de bandits. Son inquiétude est aussi partagée par l'Assemblée provinciale du Olomami. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi, cet organe des libérants se dit surpris de voir ces jeunes débarquer à Kadiama sans que les autorités provinciales ne soient officiellement informées. Les députés provinciaux évoquent aussi la mauvaise expérience qu'a le Olomami après le passage dans ce site d'autres jeunes délinquants à l'instar de ceux de Kamuina Sapu qui avaient fini par faire subir à la population des exactions de toutes sortes. Pour cela, l'Assemblée provinciale recommande entre autres
d'envisager la possibilité d'orienter ces bandits vers les centres de rééducation les mieux appropriés en vue de prévenir la sécurité de la pauvre population. La province du Olomami est prête à disponibiliser de la main-d'œuvre nécessaire pour le renforcement de la production agricole au service national de Kanyama Kassese.
Lubumbashi, Jangandu, Radio Kapi.
Autre nouvelle sur Radio Kapi, la province du Kasaï central a perdu l'une de ses figures de proue, c'est le professeur Ambroise Kamukuni, gouverneur intérimaire. Selon l'un de ses collaborateurs, l'illustre disparu est décédé ce mercredi de suite de la pneumonie respiratoire à l'hôpital Monkolé de Kinshasa, qui était alors cet acteur politique. Élément de réponse dans ce portrait que nous dresse Blaise Ndongala Mayanda.
Ambroise Kamoko Didi Ambroka pour les intimes a été gouverneur intérimaire du Kassai Central depuis le 1er juillet dernier. C'est là, quelques jours après la destitution du gouverneur Martin Kabuya par l'Assemblée provinciale. Acteur politique, il avait été élu député national et provincial à Kazumba au législatif de 2018. Nommé commissaire spécial adjoint du Kassai Central à côté de Justin Milonga, après démembrement du Kassai Occidental, il a exercé cette fonction jusqu'en avril 2019. Spécialiste en droit pénal et des affaires, Ambroise Kamukuni a été avocat conseiller de plusieurs entreprises publiques et privées. Professeur depuis 2007, l'illustré Duspari enseignait les droits constitutionnels dans plusieurs universités du pays, dont l'Unikin et ailleurs. Il a été également bâtonnier du barreau de l'Est Kassai Occidental entre 2007 et 2013. Né à Tshibala en 1955 en territoire de Kazumba, il a terminé ses études primaires à l'épée Kachabala à la mission catholique de Kalomba. 6 ans plus tard, il décrochera son diplôme d'état au collège Saint-Jean-Bergmans de Kapondé. Ses proches affirment qu'Ambroise Kamukuni laisse derrière lui une famille nombreuse. De Kananga, Blaise Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
Entamée depuis vendredi dernier, la grève des enseignants du Maniema s'étend dans les territoires de cette province. Contacté, le secrétaire provincial du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, félicite les enseignants pour le respect du mot d'ordre. Toutefois, le directeur de la province éducationnelle demande aux enseignants de revenir au travail. Nestor Ntumba estime que le moment de cette grève a été mal choisi, étant donné que les accords existent entre le gouvernement central et les syndicats de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour régler les problèmes des grévistes. Il s'est confié à Florence Kizalunga.
La grève, c'est un droit reconnu même dans la Constitution. Mais ce que je peux leur dire, c'est de mettre de l'eau dans leur vin. Et la période n'est pas très très bien choisie. Pourquoi je dis cela? Parce que les mêmes recommandations que nous exigeons ici au Maniema, ce sont les mêmes qui sont défendues par nos collègues et tous les syndicats de l'EPST unis à Kinshasa pour parler des mêmes choses. Donc, moi, j'aurais souhaité que les syndicalistes appellent de nouveau leur base pour le bien de ces enfants. Parce que, vous rappelez ici chez nous au Maniema, ces enfants ont fait presque 5-6 mois à la maison. Dans leur tête, il n'y a plus rien. Et ils ont commencé les cours le 12 octobre et quelques semaines après, grève. Non, nous tuons nos enfants pour rien. Donc, ils ont bien fait de faire du bruit, d'envoyer le cahier de charge. C'est arrivé et même l'autorité provinciale est au courant. Il leur a demandé qu'il va signer à eux pour présenter ses doléances à qui de droit. Mais entre-temps, ils doivent tenir une réunion pour demander aux enseignants de retourner à l'école parce que nous pensons que le gouvernement est en train de résoudre petit à petit leurs problèmes.
On enchaîne avec la ville de Mbujimayi où les jeunes dont l'âge varie entre 14 et 22 ans doivent avoir des informations exactes sur leur santé sexuelle et reproductive. Pour cela, des activités de jeunes se poursuivent dans la ville. Il y a notamment des formations des pères éducateurs, des prestataires de santé et sur le mentorat pour l'accompagnement de jeunes. Toutes ces activités sont organisées par le réseau national des ONG pour le développement de la femme avec l'appui technique et financier de l'OMS et du PNLS, mais aussi le Programme national de la santé des adolescents. La coordonnatrice nationale du RENADEF indique que l'objectif est d'accompagner la jeunesse pour l'accès aux services de qualité. Marie-Zaïna Nyombo le dit à Esther Ndalafina.
L'objectif de ces formations, c'est faire en sorte que les jeunes et les adolescents dans la tranche d'âge de 14 à 22 ans puissent avoir des informations exactes par rapport à la santé sexuelle et reproductive, mais aussi qu'ils arrivent à sensibiliser les autres jeunes en organisant ce que nous appelons des causeries éducatives afin de faire en sorte que les autres jeunes puissent être éclairés. Et à côté de ces jeunes pères éducateurs formés, nous avons les mentors. C'est des grandes personnes qui accompagnent ces jeunes dans leur travail et essayer de voir s'ils sont en train de le faire selon les normes telles que le prévoit le Programme national de santé des adolescents à travers l'approche par compétences. Nous avons les mêmes objectifs au niveau des formations sanitaires et là, nous avons l'appui de l'OMS qui travaille dans le sens de voir comment améliorer les prestations des services en milieu des soins par rapport aux services des adolescents et de jeunes. C'est ainsi que nous sommes venus avec l'OMS, le Programme national de lutte contre le sida, le PENSA et le corps d'aide. À l'occasion, corps d'aide va livrer au moins 6 espaces de jeunes à aménager ici à Mbujimayi, des endroits conviviaux, permettre à ce que les jeunes s'expriment librement entre eux.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, l'épreuve de force se poursuit entre le pouvoir et l'opposition. Hier soir, l'ex-chef rebelle Guillaume Soro, en exil à Paris en France, a appelé les forces de défense et de sécurité à agir au plus vite, alors que plusieurs leaders de l'opposition en Côte d'Ivoire sont en résidence surveillée, il s'est dit disposé à poursuivre la mise en place de la transition. Qui du président sortant républicain Donald Trump ou du candidat démocrate Joe Biden sera élu président américain? On ne connaît toujours pas le nom du prochain chef de l'État. Joe Biden a cependant pris en nette avantage avec 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Celui-ci a remporté la Floride et le Texas, historiquement républicains, mais que les démocrates avaient l'espoir de décrocher. Joe Biden s'est imposé en Arizona, mais plusieurs médias américains estiment qu'il est encore trop tôt de les lui attribuer.
L'invité.
Notre invité ce midi, c'est le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu, Karna Soro, fait le point des activités menées par la mission onusienne en appui au gouvernement provincial. Il plaide pour une intervention d'urgence en faveur des déplacés de Bujumbo et de Mikenge. Plus de 10 000 personnes veulent retourner à la vie normale dans leur milieu respectif. Il s'entretient avec Emmanuel Elmejoube Kabedi.
Monsieur le chef de bureau de la MONUSCO, Karna Soro, bonjour.
Bonjour.
Et la MONUSCO serait intervenue pour la réhabilitation d'un pont sur la route nationale numéro 5 qui relie Bukavu à Uvira.
Merci Emmanuel. Nous avons été sollicités par les autorités et alertées par les communautés locales sur le fait que ce pont qui représente quand même une infrastructure de franchissement clé dans la mesure où il relie la partie nord du sud qui voit la partie sud donc était en train de s'écrouler et qu'il y avait des risques sérieux d'accident sur cette voie. Donc immédiatement nous avons informé la hiérarchie de la MONUSCO qui nous a autorisé à déployer le contingent du génie chinois qui donc en 48 heures a remis le pont en place donc en renouvelant l'infrastructure de franchissement et aujourd'hui ce pont est à nouveau fonctionnel.
La société civile qui a vu, qui apprécie, qui vous remercie, pense que la MONUSCO peut faire aussi de même dans d'autres territoires où il y a des mêmes problèmes de ponts ou de routes aussi. Est-ce que vous êtes prêts?
Mais nous sommes en train de travailler avec les autorités, toujours sur la RN5, comme vous le savez, nous avons réhabilité les points de passage de Kala 1, 2 et 3, et nous sommes en train de réhabiliter le pont de Runingu. Nous avons aussi fourni des conteneurs qui ont été placés au niveau du pont de Sangay pour ceux qui voyagent sur la RN5. Donc nous avons travaillé avec les autorités pour renouveler ces différents points de passage sur la RN5. Nous avons aussi fait des évaluations, notamment sur la route de Bunyakiri, qui est une route importante, comme vous le savez, pour la protection des populations civiles. Les FRDC, la MONUSCO ont besoin de pouvoir se déplacer dans ces zones-là pour protéger les populations civiles. Donc nous avons fait une évaluation sur cette route-là. Nous sommes en discussion avec les autorités pour un partage du travail, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette route.
Sur le plan sécuritaire, il y a eu des combats, groupes armés dans les hauts et moyens plateaux d'Ouvira et de Fizi. Des personnes se sont déplacées. Quelle est la situation? Il y a eu visite de plusieurs personnalités aussi des Nations Unies dans la région. Quelle est la situation à ces jours?
Dans un premier temps, je voudrais dire que la situation est critique. Les conditions de vie de ces populations sont extrêmement difficiles. Comme vous le savez, c'est une zone qui connaît beaucoup d'intempéries naturelles. Il pleut énormément. La nuit, les températures descendent jusqu'à 7 degrés. Donc, les conditions de vie de ces populations sont extrêmement difficiles. Nous avons autour de la base de Bujumbo autour de 7 à 8 000 personnes, dont presque 4 000 enfants. Nous avons autour de la base de Mikenge autour de 3 000 personnes aussi. Et nous travaillons ensemble avec les FRDC depuis quelque temps pour appuyer ces populations-là pour qu'elles puissent avoir accès à leur espace champêtre, pour qu'elles puissent faire de la production, pour se prendre en charge. Comme vous le savez, il est très difficile aussi d'accéder à cette zone avec de l'aide humanitaire, compte tenu de l'altitude. Mais je voudrais vraiment demander ici à l'ensemble des autorités provinciale, locale, régionale, de se mobiliser pour apporter une bouffée d'air à cette population, pour qu'elle puisse retourner vers ses champs pour pouvoir vivre en paix. Il faut vraiment que tous les efforts soient mis en œuvre en appui donc à ce que la MONUSCO fait, et il faut vraiment que ces populations puissent reprendre leur vie normale. La situation est extrêmement difficile. Par ailleurs, comme vous le savez, la rentrée a commencé. Toutes les écoles ont été brûlées dans la zone. Les centres de santé aussi ont été incendiés. Donc, toute l'infrastructure sociale de base n'existe plus. Donc, il y a vraiment un travail à faire qui n'est pas seulement un travail militaire. Au-delà du travail militaire, il faut une mobilisation politique pour que chacun revienne à la raison et comprenne qu'il faut que la cohabitation pacifique prenne le pas sur les confrontations armées.
Il y a eu, le gouvernement congolais a fait signer des accords avec les groupes armés pour arrêter les combats dans la zone. Aujourd'hui, certains groupes armés observent ces accords-là. Il y en a d'autres qui continuent à s'entêter. Est-ce que vous avez des stratégies pédagogiques pour permettre à d'autres groupes armés de répondre, de poser les armes et libérer la zone?
Je voudrais réitérer ce que la représentante spéciale a dit. Parallèlement aux efforts de pacification et de médiation, il est important de rappeler à tous les acteurs qu'ils seront tenus pour responsables des violations des droits de l'homme qui sont commises dans ces endroits.
Monsieur le chef de bureau de la MONUSCO, Karna Soro, nous vous disons merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, Karna Soro, et le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu, interrogé pour nous par Emmanuel Elamejo Kabedi. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Élisée Tikota Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision de Pelé Kipela Mondou.